des polars et des notes.
Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de Des Polars et des Notes, bienvenue aux infidèles aussi, il n'y a pas de raison. Bienvenue pour une heure de littérature noire sur Radio Évasion, Radio Balise ou Radio Laser. Vu le temps que ce printemps nous réserve, déconfiné ou pas, on est aussi bien au chaud et au sec à écouter la radio. Surtout qu'on a pensé à vous dépayser, tout le monde n'a pas pu partir à Pâques, je vous invite donc en Irlande du Nord, au-delà du cercle polaire arctique, en Espagne et au Suriname. Vous retrouverez bien entendu toutes les références des romans sur le blog le429.fr. Pierre-Yves est comme à l'accoutumée prêt à tout ou presque pour nous assurer un son de qualité. On peut donc partir pour la première étape, c'est Belfast, ou plutôt Carrickfergus, sa banlieue en 1983 avec « Ne me cherche pas demain » de Adrian McKinty. Qui s'est paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs et ça a été traduit de l'anglais Irlande du Nord par Laure Manceau. Alors c'est l'histoire de l'ex-inspecteur Sean Duffy qui travaille avec application à se fusiller le foie au whisky et à la bière depuis qu'il a été radié des services de police sur de fausses accusations, un coup monté assez pitoyable. Et il faut dire aussi qu'il était un des rares flics catholiques de la police royale d'Ulster. Un de ses amis d'enfance, artificier de l'AIRA, qui s'évade de prison et les huiles de la police qui sont bien démunies parce que on est replongé dans les labyrinthes de Londonderry et de la campagne irlandaise où rien ne filtre. Donc ces huiles viennent bien sûr le tirer de son ivresse coutumière pour lui demander avec insistance de se mettre en chasse. Alors ce n'est pas une mais deux intrigues qui attendent Duffy, dont une à huis clos, et il va devoir remonter le temps, revoir ses anciens camarades indépendantistes, enfin sauf ceux qui sont morts, il y en a un paquet, afin d'essayer de sauver Maggie Thatcher, prochaine cible d'un attentat. On se demande vraiment s'il a bien fait. Enfin, tout le roman repose sur Sean Duffy, tour à tour nostalgique, drôle, cynique, un humour noir qui n'épargne rien, mais avant tout un type très attachant que l'on n'a pas envie de quitter. C'est du très très grand roman noir, une écriture formidable, c'est très très bien traduit et à ne surtout pas rater. Alors, petit plus, Sean possède une solide culture musicale, on va le voir tout de suite avec I'll Be Gone de Tom Waits.
Tonight I'll shave the mountain. I'll cut the heart from Pharaoh's. I'll pull the road off of the rise. Tear the memories from my eyes. In the morning I'll be gone. I drink a thousand shipwrecks. Tonight I steal your paychecks. I paint the sheets across my bed. The birds will all fly from my head. And
Imaginez une presqu'île coupée du monde, par-delà le cercle polaire arctique, un froid à vous briser les dents, la nuit totale ou le jour sans fin et quatre hommes isolés là. C'est le cadre du premier roman de Caroline Hinault, Solac, qui est paru aux éditions du Rouergue dans la collection Le Rouergue Noir. C'est un huis clos assez époustouflant. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que peuvent bien fabriquer ces quatre hommes dans ce désert glacé ?
Qu'est-ce qu'ils fabriquent là ? Alors, d'abord, il y a deux militaires. Ils n'ont pas tous la même nature, alors au sens existentiel, mais aussi sans doute au sens professionnel. Il y a deux militaires qui sont là pour des raisons un peu, alors officiellement garder un drapeau sur cette péninsule arctique. On comprend qu'ils ont sans doute été un peu bannis du monde des terriens, que l'armée s'est débarrassée d'eux. Et puis, il y a un troisième homme qui est surnommé Grizzly, qui est un scientifique. Un jeune idéaliste qui est venu, on est à la fin du XXe siècle, on ne sait pas très très bien quand, mais enfin qui fait les premières observations climatologiques de la fonte de la banquise, enfin voilà, qui observe les effets du réchauffement climatique. Et donc au début du livre, il y a un quatrième personnage qui arrive, un quatrième homme qui est lui aussi soldat et qui est élutreillé au tout début du livre, vraiment c'est la première page. Et, enfin presque la première page et qui vient rejoindre donc l'équipe de militaires, sauf qu'on ne sait pas très bien lui pourquoi est-ce qu'il a été envoyé sur Solac.
Ouais, on sait pas grand chose. Solac, on sait pas trop c'est où c'est. Les militaires, on sait pas trop ce qu'ils font là. Ça commence. Le jeune arrive parce que il y en avait un troisième avant, mais qui s'est suicidé. Donc
un mort.
Voilà, oui. Ça commence un petit peu fort, quoi.
Oui, c'est vrai que l'arrivée de ce quatrième personnage, de la recrue, est déjà placée sous le signe un peu du tragique et de la mort, puisque il vient en remplacement, on le comprend dès les premières pages, d'un militaire qui était là, qui vivait avec les trois hommes jusqu'ici, et qui s'appelait Igor, et dont on comprend qui s'est donné la mort voilà, sur cette péninsule. Et donc il y a un échange, hein, c'est ce qu'il dit au début du livre, il y a un troc de morts vivants. Le corps d'Igor retourne chez les terriens et cette recrue mystérieuse, muette et assez menaçante arrive à sa place. Voilà.
C'est le seul lien, c'est la rotation d'hélicoptère qui ne peut se faire évidemment que quand le temps le permet et il y a pas moyen de revenir autrement. Donc votre scientifique, la Grizzly, j'avais un peu l'impression qu'il symbolisait les climatologues aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne prête trop attention à ce qu'il fait, ni il lui demande son avis. Il fait ses mesures et tout le monde s'en fout un peu.
Oui, alors, enfin, il symbolise beaucoup de choses parce que chaque personnage est un peu, représente plus que lui-même, ça c'est vrai. Et en effet, il est déjà il a un peu une lueur d'espoir dans un roman qui est quand même très noir, c'est le cas de le dire. Et donc, il est du côté de la science, il est du côté de la recherche, d'une forme de vérité, mais aussi d'humilité, quoi. C'est un personnage qui essaye malgré tout de faire des observations qui sont là pour le bien commun, voilà, pour faire progresser l'humanité. Et arrêter un peu le saccage écologique. Et puis, et en plus, il doit, lui, se coltiner cette promiscuité avec donc ces militaires qui sont très particuliers et avec qui il doit traverser la nuit arctique, quoi.
Oui, et c'est un des militaires, Piotr, qui est le narrateur et qui parle à la première personne, qui raconte ce qui se passe. Et ces trois militaires-là, donc, qui gardent un drapeau, ce qui est vraiment intéressant. Mais personne ne semble vouloir le prendre, ce drapeau. Et moi, votre livre m'a fait un peu penser au désert des Tartares ou en attendant Godot. On sait pas.
Bah, écoutez, je vous remercie de la référence parce que c'est deux livres que j'adore, hein, évidemment. Et alors, vous voyez, Le désert des Tartares, c'est drôle parce que j'ai relu il n'y a pas très longtemps et effectivement, ça m'a frappé certaines. Et même, il y a Le rivage des Cires parce que Le désert des Tartares, c'est aussi une référence au rivage des Cires de Gracq où il y a cette idée d'attendre quelque chose qui ne vient pas jamais, enfin, une espèce de
une attente
de
absurde.
Comment tu m'as entendu, excusez-moi.
Une attente absurde.
Oui, une attente absurde, mais qui peut être une sorte d'image de l'existence, selon comment, sous quel angle on regarde l'existence humaine, mais c'est exactement ça, c'est cette attente absurde, et chacun la vit différemment, parce qu'on peut avoir une conscience très forte de sa finitude, et donc être obsédé par sa propre mort, et être paralysé par ça, ou au contraire en faire quelque chose, quoi, et donc de cet absurde. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu comme dans En attendant Godot, placé dans un no man's land, c'est un lieu, un prétexte de huis clos d'une grande intensité, la banquise, en fait, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a rien que même.
Mais c'est un huis clos immense.
Eh bien, c'est un huis clos paradoxal, quoi. C'est un huis clos où, à la fois, il est paradoxal dans deux sens, ce huis clos. D'abord, parce que ils sont quand même face à un gigantisme, à une immensité qui pourrait paraître un symbole de liberté, de voilà, de quête d'absolu, etc. Et puis, en fait, c'est un enfermement presque supplémentaire. C'est-à-dire que placer des personnages comme ça face à une telle immensité, alors qu'ils ne peuvent presque rien en faire et qu'elle est dangereuse, elle est prédatrice aussi, cette immensité, ça les renvoie d'autant plus à leur tout petit statut d'être humain, et donc ça les renvoie à des questionnements, en fait, sur comment vivre. Et puis il y a ce huis clos de par rapport à l'autre, ils sont seuls mais jamais complètement, le personnage le dit à un moment, on est seul toujours avec soi, avec justement cette absurdité de l'existence, avec ce sentiment, cette conscience de la mort, et en même temps on doit vivre avec les autres, supporter les autres. Enfin, c'est Sartre, quoi. C'est l'enfer, c'est les autres, mais c'est vraiment ça, quoi. Et comment on fait pour rester humain avec tous ces paramètres qui sont enchevêtrés?
Ouais, surtout qu'il y a quand même pas mal de barbarie et de cruauté chez l'autre soldat, Rock, là, et qui fait que ça devient vite insupportable. Donc, on sent la tension qui monte. C'est perpétuel, hein. C'est de la première phrase jusqu'à la dernière, la tension monte, ouais. monte. On sait que les deux militaires, Piotr et Rock, ne sont pas des innocents. C'est vrai, effectivement, qu'ils ont été bannis, qu'ils ont été mis là parce que ça devait débarrasser bien du monde. Et le remplaçant qui arrive, il est mutique. On sait pas s'il est muet ou s'il refuse de parler. Il l'appelle le gosse parce qu'il a un visage très très jeune. Et on se demande ce qui. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'il a pu faire ce jeune pour être ainsi en disgrâce, quoi, pour se retrouver au milieu de gens aussi sombres, aussi dangereux.
Oui, c'est ça, plus âgé. Enfin, quel est son destin? Effectivement, on a envie de percer le mystère de son identité, de son mutisme. Et puis effectivement. Le fait qu'ils parlent pas, ça renvoie vraiment. Ils ont tous un rapport très différent au langage, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est que il y a qu'un narrateur, on a que le point de vue de Piotr, donc ce vieux militaire qui est très ambivalent, qui on sait pas trop. Comme on a que sa parole à lui, on est obligé de le suivre dans son flux de conscience, dans ce qu'il pense et dans ce qu'il décrit des autres personnages. Donc l'inquiétude, elle est aussi vécue à travers lui, à travers ce qu'il nous raconte. Et je trouvais intéressant que, par exemple, ce narrateur, on ne sait pas trop quoi en penser non plus. On comprend qu'il a un passé assez trouble. Et en même temps, il a des espèces de fulgurances poétiques, une manière de voir le monde qui est très intéressante, puisque lui, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc, il a eu le temps de réfléchir à sa condition humaine.
Puis, on l'aime bien, finalement.
Mais, peut-être. Alors ça, c'est marrant, c'est assez différent selon les lecteurs, mais peut-être que moi, finalement, j'ai un attachement pour lui aussi, mais c'est pourtant, il est très éloigné, sans doute, de ce que je suis, mais j'ai dû y mettre aussi de ce que je pensais, forcément, dans ce flux de conscience, justement, oui, c'est vrai. Et puis, donc voilà, ils ont un rapport très différent au langage. La brute, le personnage de Rock, qui est vraiment un peu une caricature de brute, de quelqu'un qui aime la violence, qui aime le sang, la traque, voilà. Lui, il a un rapport au langage complètement minimal. C'est quelqu'un qui est un peu handicapé par ça, même, justement. Et donc, et puis, il y a ce scientifique qui, lui, de la poésie, qui a au contraire un rapport très apaisé. On sent qu'il navigue mieux dans l'existence que les autres personnages. Et puis, l'absolu non-langage, c'est le mutique, mais qui écrit. Écrit dans ses carnets.
Il écrit beaucoup, et petit à petit, c'est lui qui revient. Petit à petit, on sent qu'il y a une bascule et que c'est lui qui devient une menace. Et ça, il y a tout un jeu qui est très très subtil entre les personnages où ceux qu'on subodore comme effectivement très dangereux au début deviennent petit à petit de plus en plus méfiants et craignent presque pour eux.
C'est un rapport de force. Ouais. Sans ça, je voulais que la tension monte en permanence, vraiment qu'on sente, de toute manière, le drame est inéluctable, parce que moi, j'avais construit le livre comme une tragédie. Donc, pour moi, on montait vers l'horreur, ça, c'était sûr. Mais l'angoisse dans la vie, c'est toujours de ne pas savoir de quel côté ça va frapper, quoi. Et donc, je voulais qu'on ressente, qu'on soit saisi dans le livre par vraiment une l'intensité de cette angoisse qui est symbolique aussi parfois de l'angoisse existentielle, on parlait de Godot, etc. Et donc on n'en peut plus de ne pas savoir, et en même temps il y a quelque chose de jubilatoire dans la lecture, mais d'être pris comme ça dans cette montée de l'angoisse et jusqu'où elle va aller, d'où va venir le coup fatal, quoi. C'est vrai que c'est assez obligatoire.
Je vous assure qu'à la lecture, c'est pas mal non plus parce qu'on est absolument stupéfiés. en lisant votre livre, j'ai trouvé du début à la fin aussi qu'il est binaire. C'est-à-dire, il est tout le temps en opposition entre l'eau liquide et la glace, le jour, la nuit, le blanc, le noir. Il n'y a pas de nuance. La vie, la mort. Il n'y a que le sang qui vient égayer un peu.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour le coup, moi je suis quand même une obsédée de la nuance, c'est-à-dire que justement je pense que par exemple le seul nuancé c'est Grizzly, hein, le personnage un peu positif, qui pour moi est un espoir pour l'humanité, et je pense que justement l'humanité a trop tendance à vouloir renvoyer justement la vie d'eau à la mort, le blanc, le noir, etc., et à refuser de voir les eaux troubles, les nuances, les eaux grises. Et le narrateur, lui, il dit d'ailleurs à un moment, il clame l'impureté, il refuse le symbole de pureté que serait la banquise et le fait que les humains adorent comme ça les symboliques un peu simplistes, et qu'au contraire, en fait, sous les apparences, sous les faux semblants, il y a souvent des choses beaucoup plus complexes et ambivalentes. Et lui en sait quelque chose, en fait, que personne n'est tout blanc, tout noir, en fait. C'est ça l'idée, quoi.
Ouais, mais Grizzly, c'est un petit peu un nuage qui passe, un nuage gris qui passe, qui fait son truc, qui est là,
oui,
qui a son
ça.
Utilité, etc. Mais je prends toujours du côté de Piotr, des
oui.
autres. Et là, eux, ils sont complètement binaires. Ils sont un ou deux, mais pas ou zéro ou un, mais pas les deux à la fois.
Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est bâti sur des grosses forces d'opposition, quoi. C'est vrai que je voulais que le livre, je voulais qu'il soit très tranchant, très intense. Ça pouvait pas supporter, je dirais, certains compromis dans les tempéraments. Donc, il fallait absolument que ça aille très très loin. Mais je dirais que c'est plutôt, oui, en termes de peut-être d'intensité, d'extrême de leurs opinions, de leur rapport au monde, de leur rapport au corps, de leur rapport au langage. Tout est exacerbé. Mais pour moi, tout était exacerbé par le contexte, en fait. C'était comme si le contexte était un accélérateur, une centrifugeuse, là, dans laquelle on est place, et puis tout est plus intense, quoi.
Donc, c'est effectivement un suspense qui est du début jusqu'à la fin. Il y a effectivement aussi les animaux qui rentrent en ligne de compte et qui sont un des phénomènes qui sont communs à l'humanité, c'est-à-dire que Rock s'en sert pour faire du trafic de peau. Et il y a aussi le fait de l'utilité de l'animal, c'est-à-dire qu'il est là pour mourir et pour rapporter de l'argent. En plus, l'ours blanc, vous l'appelez le pater, le père.
Ah oui.
Et ça va sembler bizarre parce que les animaux ont qu'une fonction pragmatique et vraiment basse d'argent, de trafic, de pouvoir.
Oui.
Et pourtant, c'est le père.
Oui, alors bon, ce choix du pater, c'était aussi... parce qu'il y a plusieurs choses. Hein, vous avez dû en remarquer que dans le livre, ça questionne quand même beaucoup le rapport de la masculinité de ces hommes.
Oui.
Et donc, de comment ils s'interrogent face à leur corps, à leur masculinité, à la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors, le pater, c'était un peu cette espèce de représentation d'une espèce de patriarcat, comme ça, voilà, mais qui était détournée sous le règne animal. Et puis, il y avait un peu cette dimension symbolique. Et puis le rapport aux animaux, je trouvais que c'était intéressant qu'il soit justement ambivalent, c'est-à-dire qu'il soit à la fois, comme la nature hein, d'une manière générale, à la fois proie et prédateur. Et je trouvais que ça permettait un rapport de force entre les êtres humains et ces animaux dont ils ont à la fois besoin pour survivre et en même temps Il y a une sauvagerie dont on se demande si elle n'est pas plus chez les êtres humains que chez les animaux, hein, notamment chez un personnage où vraiment oui. L'horreur va très très loin. Donc la question de notre rapport à notre animalité, pour moi, elle était liée justement à la question du langage dont je vous parlais avant. Ça questionne vraiment leur humanité sur ces deux échelles-là, sur leur rapport à l'animal et sur leur rapport au langage. Et parfois, il y a une harmonie très belle avec les animaux quand ils sont capables, comme le narrateur, de marcher sur la banquise, d'observer quand il fait faire le tour de la péninsule, de la presqu'île à la jeune recrue, au gosse. Il y a quelque chose de très beau parce qu'ils sont...
Oui, il y a quelque chose d'initiatique, ouais.
Oui, d'initiatique, exactement, d'une forme de transmission, de regarder ce monde-là avec un œil qui n'est pas un œil de propriétaire, qui n'est pas un œil d'exploitant, de l'ordre de l'exploitation et de la propriété. Et donc, à ce moment-là, c'est très beau. Et puis autrement, tout est placé toujours sous le signe du rapport de force et parfois de la cruauté absolue. Alors, du côté animal comme du côté humain, en fait.
Ouais, enfin, sauf que l'animal, il essaie de se nourrir. C'est pas...
Oui, non, mais tout à fait.
C'est pas le même plan, quoi.
C'est exactement. C'est pas sur un plan moral, ouais.
Alors, en tous les cas, bravo, parce que c'est vraiment un très, très beau roman et qui va vous scotcher, mais alors, du début jusqu'à la fin. Et la fin, je vous raconte pas, ça, c'est totalement impossible. Mais moi, je m'en suis pas encore remis. C'est vraiment quelque chose de très, très, très étonnant. Donc, je rappelle le titre, c'est Solac, aux éditions du Rouergue, dans la collection Le Rouergue Noir. Et c'est le premier roman de Caroline Hinault, et on espère bien qu'il y en aura beaucoup d'autres, parce que s'ils sont du même tonneau, ça vaut vraiment le coup.
Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup à vous. Alors, il n'y a pas de musique trop dans votre livre, mais on va écouter quand même Arctic Monkeys. Au moins, il y a un article dedans. Et c'est « When the sun goes down », c'est « Quand le soleil descend », avant la longue nuit polaire. Merci beaucoup, Caroline.
Ben, c'est moi, merci beaucoup. « So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. » And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. Said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here, around. Monteo, isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say, oh, she's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted.
chance up, but he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Alors, si la personne qui partage votre lit se met à parler en dormant, un bon conseil, achetez des boules-caisses et n'essayez jamais de comprendre ce qu'elle raconte. Sinon, il risque de vous arriver quelques mémorables mésaventures, telles que Louise va les vivre, le personnage principal du dernier roman de Pascal Dietrich, Faut pas rêver, paru aux éditions Liana Lévy. Bonjour Pascal.
Bonjour Patrick.
Alors, que se passe-t-il donc dans la chambre à coucher de Louise ? La pauvre, elle est épuisée et elle est enceinte de 5 mois.
Oui, alors pour Louise, ce n'est pas facile. En fait, elle pense avoir trouvé un homme parfait en Carlos. C'est un type, il est sage-femme, il est féministe, il est écolo. Enfin, voilà, il a toutes les qualités, mais il a un petit défaut. Il fait de la somniloquie. Donc, la somniloquie, c'est un symptôme qui consiste à vivre ses rêves à voix haute, en parlant. Donc, toutes les nuits, il se réveille et il parle avec beaucoup de véhémence. Et il est assez agressif. Et le pire, c'est qu'il parle en espagnol. Comme il est d'origine espagnole, les gens qui somniloquent s'expriment en général dans leur langue maternelle.
Ouais, donc essayez de partager votre lit avec des gens qui n'ont pas toujours parlé français. Déjà, ça va gagner du temps.
C'est ça. Déjà, au moins, on peut communiquer avec la personne et comprendre ce qu'elle nous raconte.
Ouais. Et ce que raconte Carlos inquiète passablement Louise parce que ça a vraiment l'air d'être grave. Il parle de voitures, de luxe. Il parle de Marbella. Enfin, le peu qu'elle comprend parce qu'elle ne piche pas grand-chose, la pauvre. Mais elle sent bien qu'il est pris dans un truc qui n'est pas sain, quoi.
Ben oui, alors déjà, elle a une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, un jour, elle a eu une idée, une étincelle. Elle s'est dit, je vais prendre mon dictaphone et je vais l'enregistrer pour demander à Jeanne, qui est une de ses meilleures amies et qui est bilingue, de faire la traduction de l'espagnol vers le français. Et donc, les filles, toutes les nuits, vont commencer à enregistrer et à traduire les propos de Carlos. Et effectivement, elles vont avoir des mauvaises surprises parce que Carlos, il fait un rêve récurrent. Toutes les nuits, il est question d'un pauvre type, Gonzalez, qui met dans une voiture et ensuite, qu'il envoie à la mer. Et donc, voilà, il y a une sorte de crise récurrente qui commence vraiment à les inquiéter.
Oui, c'est ça. Elles voient bien, elles se rendent compte toutes les deux que ce n'est pas juste une idée qu'il aurait pu voir à la télé la veille, etc. C'est vraiment un truc qu'il poursuit. Et lui, tous les matins, sourire, smile, très gentil, toujours le même, qui revient et qui comprend absolument pas, qui dit « mais non, t'inquiète pas, c'est juste un rêve, il se passe absolument rien ». Et c'est Louise et Carlos, c'est le couple parfait qui se dit absolument tout. Et là, il y a un petit coin qui se met dans leur amour parfait, c'est qu'ils commencent à se mentir tous les deux.
Ben oui, c'est un peu le problème. Au départ, il y a une vraie transparence entre eux. Bon, après, ils se connaissent depuis un an, tout a été très vite, elle est tombée enceinte rapidement. Et donc, voilà, ils ont pour principe de tout se dire, mais ce petit côté, enfin, ce petit défaut qu'il a la nuit, va commencer à semer le doute dans l'esprit de Louise. Et une fois qu'on commence à avoir un doute, on se demande s'il n'y a pas une face cachée de l'autre qui nous échappe. Donc, elle va entrer dans cette espèce de tourbillon et ça va la mener très loin parce que sa collègue va commencer à faire des analyses des rêves de Carlos, des analyses scientifiques, on y reviendra peut-être, qui petit à petit vont les envoyer. Enfin, elle se dit, au bout d'un moment, elle commence vraiment à douter de lui. Elle se dit, mais en fait, je ne le connais pas vraiment.
Et en plus, Jeanne, sa copine, celle qui fait les traductions, elle vient de se séparer. Donc, c'est pas tout à fait innocent. C'est-à-dire qu'elle se retrouve, elle, dans un couple éclaté et elle voit sa copine, sa meilleure amie. Louise, il y a quelqu'un qui sonne quelque part?
C'est pas chez moi.
Continue.
Elle voit sa meilleure amie Louise qui suit un peu le même chemin qu'elle, et enfin où elle pense, parce qu'on a tendance à comparer sa situation à celle des autres.
Oui, alors du coup, forcément, les problèmes qu'elle-même a avec son ex-conjoint vont faire qu'elle va beaucoup s'investir dans cette histoire de relation entre Carlos et Louise. Donc, c'est presque elle qui va mener la barque. En fait, ça l'occupe le soir de traduire tous ses rêves de sa copine. Et puis, je crois qu'il y a aussi une sorte de quête pour elle-même. Elle se dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose dans les relations de couple. Elle a envie d'en savoir plus au sujet de ce couple qui était pour elle assez idéal. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est elle qui a présenté Louise à Carlos. Ouais. Donc, elle se sent aussi investie. Un peu d'une responsabilité dans le couple de sa copine. Elle se dit, mince, ça se trouve, je me suis trompée.
Oui, parce que Julien, l'ex-mari, est le meilleur copain de Carlos. C'est un avocat spécialisé dans l'environnement. Et à trop vouloir remonter l'origine des rêves, on en arrive au cauchemar. Et donc, mais il y a quelque chose qui est récurrent dans vos romans, aussi bien les mafieuses, une île bien tranquille, même un petit peu le homard, c'est que vos héroïnes se retrouvent à chaque fois précipitées par la faute de leur famille, par la faute des hommes, des familles, dans des situations qui les révèlent à elles-mêmes.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être aussi lié au fait que j'aime beaucoup écrire des polars qui sont inscrits dans le quotidien. Donc, forcément, le quotidien, c'est la famille. C'est quand même la cellule de base dans laquelle on s'inscrit. Donc, je pense que ça, c'est la première explication. Et puis, la deuxième, c'est que je donne la parole à des femmes. J'utilise des héroïnes. Et donc, forcément, les relations de couple sont au cœur de la vie quotidienne et elles s'intéressent. Elles se posent des questions toutes sur leurs relations avec leur entourage masculin, puis leur entourage familial un peu plus de manière un peu plus générale. Donc, ouais. C'est sûr que les mafieuses, quand j'ai écrit ça, c'était la mafia, c'est aussi l'archétype de la famille, un peu plus élargie, mais...
Mais une île bien tranquille, c'est un petit peu ça aussi. C'est que, bon, quand c'est pas le père, c'est le mari, etc. Mais c'est à chaque fois, la nana, elle débarque et... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?
C'est vrai. Après, c'est vrai que j'aime bien... allier une sorte de quête, une enquête où il y a quelque chose à découvrir et en même temps une quête sur soi-même. Donc souvent, mes personnages allient ces deux aspects, c'est-à-dire qu'ils vont enquêter sur un mystère qui les interpelle, souvent au sein de leur famille, et puis ça va leur apprendre des choses sur elles-mêmes aussi.
Oui, qui les révèle à elles-mêmes.
Voilà, exactement, une sorte d'introspection qui les révèle en effet à elles-mêmes. Et de ce point de vue-là, les rêves, c'est presque une sorte d'introspection poussée à l'extrême, on pourrait dire.
Mais on a l'impression qu'elles ont besoin de cette sorte de tremplin.
Vous voulez dire des rêves?
Non, d'être plongé dans des situations pas possibles par leur famille, parce qu'avant, aussi bien dans une île bien tranquille que les mafieux, c'est encore un petit peu à part, où là, elle mène une vie pépère, quoi.
Oui, et souvent, j'ancre le roman à un moment de bifurcation. J'aime beaucoup ces moments de bifurcation où les gens commencent à se dire « bon, bah là, il y a quelque chose qui cloche, je vais remettre ma vie en question ». Et donc, tous mes personnages se disent en général « bon, qu'est-ce que je vais changer? Comment je peux faire ?» et se posent des questions sur le sens des choses qui les entourent et elles cherchent, elles tâtonnent, quoi. Et donc, on suit ce tâtonnement qui est souvent en parallèle avec une enquête sur un mystère ou quelque chose d'un peu plus noir. Et au bout du compte, elles résolvent le mystère souvent, mais aussi elles apprennent à mieux se connaître à la fin de l'histoire.
Et en plus, bon, bien sûr, là c'est le côté personnel du personnage principal et des gens qui l'entourent. Mais il y a quand même, au fond, vos romans sont tous très drôles. Mais il y a une analyse sociologique, vous êtes sociologue d'ailleurs, qui est beaucoup plus sérieuse derrière. Ou par exemple, dans Faut pas rêver, donc le roman dont on parle, là, vous analysez la façon dont sont alloués les logements dans les cités, avec les plus pauvres en bas, les immigrants en bas et les blancs en haut. Enfin, c'est comment on fait de la mixité sociale. Il y a plein d'exemples comme ça où vous balancez quand même pas mal de vérités qui dérangent.
Oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai que j'ai ces deux activités, ces deux casquettes. Et plus ça va, plus je m'aperçois qu'il y a un tas de choses que je peux utiliser de mon travail de sociologue, notamment de mon regard sur la société, de choses que les sociologues dévoilent sur la société dans mes romans. En fait, rapidement, petit à petit, je m'aperçois qu'il y a vraiment un point commun entre le polar et la sociologie qui est de dévoiler des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Et donc, finalement, je trouve qu'il y a vraiment un point commun entre les deux et j'utilise un peu les deux dans mes histoires. Donc, à la fois, il y a cet aspect très humoristique dont vous parlez, mais en même temps, j'essaie, par petites touches, sans essayer de démontrer quoi que ce soit, de mettre des petits constats sociologiques et de réutiliser des analyses de la société qui donnent aussi la couleur à mes romans.
Oui, parce que le polar, en fait, il n'est pas là pour donner des solutions, il est là pour poser des questions qu'on ne pose pas ailleurs.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette définition-là. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que je me définis souvent dans le roman noir plutôt que dans le polar, dans le sens où on n'a pas forcément des enquêteurs et des policiers. En revanche, on a des gens qui se posent des questions. C'est des gens, tout un chacun, qui cherchent à résoudre des problèmes, en effet.
Et vous habillez, enfin, vous investissez beaucoup plus les personnages que l'intrigue en elle-même. L'intrigue, elle va découler des personnages qui vont y aller comme ça. Mais vos personnages sont vraiment mis en avant dans vos romans.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, je fais partie des auteurs qui n'ont pas 50 personnages dans leur livre. En général, il y a deux ou trois figures qui tiennent tout le roman. Et c'est autour d'elles que ça se passe. Et ce qui m'intéresse plus que la complexité de l'histoire, moi, c'est vraiment de faire adhérer mes lecteurs à la logique des personnages. Donc, il faut vraiment que petit à petit, on rentre dans la tête des trois, enfin deux ou trois, ça dépend, personnages que je mets en scène et qui tiennent l'intrigue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est arriver à ce que les lecteurs adhèrent à des logiques qui peuvent paraître absurdes au départ. Donc, par exemple, mes deux filles, là, quand elles commencent à enregistrer les rêves, à les traduire, on pourrait se dire c'est complètement débile. Mais je crois que petit à petit, on se dit non, mais c'est tout à fait naturel. Et donc, j'adore essayer de créer un sentiment que c'est naturel au final et qu'on adhère à une logique un peu étrange.
Et surtout que là, les filles, Jeanne et Louise, elles découvrent de plus en plus de choses qui sont vraiment effrayantes. Et donc, elles font appel à un spécialiste qui va dresser des tableaux. Il y a les tableaux dans le livre, et qui va faire une analyse par mots, la récurrence des mots, etc., de la sémantique, et qui va presque donner une forme de solution, comme ça, qui devient scientifique. Et oui. Ça revient encore à la sociologie, à votre métier, à comment on peut tirer des conclusions d'éléments qui paraissent peu importants.
Bah, de toute manière, la sociologie, d'ailleurs, on mène des enquêtes en sociologie, donc il y a vraiment un parallèle entre les deux. Et donc, dans le roman, en effet, Jeanne, elle travaille dans un laboratoire de recherche, donc elle est sociologue, et dans ce laboratoire, il n'y a que des spécialistes du langage, dont un de ses collègues, qui est sémiologue, qui s'intéresse aux rêves. D'ailleurs, dans le roman, il travaille sur la question des rêves des rescapés du Bataclan. Il y a vraiment des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, elle va avoir l'idée de lui dire, écoute, j'ai un corpus, parce que petit à petit, à force de recueillir les rêves, elle s'aperçoit qu'elle a un véritable corpus scientifique recueilli de manière très méthodique chaque nuit avec une retranscription très fidèle. Et donc, elle se dit, pour faire parler ses rêves, il faut les analyser. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, il me semble, dans les rêves, c'est qu'ils ne se livrent pas comme ça. Pour pouvoir les comprendre, il faut encore une fois les décrypter et essayer de comprendre le message qu'ils veulent délivrer.
Comme pour donc, comprendre Carlos, en fait.
Comment ?
Comme pour comprendre Carlos, en fait.
Exactement, c'est ça. Et donc, il faut arriver à comprendre le sens de ses rêves et ce qu'ils peuvent révéler sur ce pauvre Carlos qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans son dos. Et donc, son collègue va mener une analyse scientifique de ce corpus de rêves et va pouvoir mettre à jour des associations d'idées, va pouvoir ordonner les choses, comprendre qu'il y a visiblement un traumatisme très fort dans les rêves de Carlos. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les rêves, il y a des symboles qui ont vraiment un sens fort. Par exemple, les gens qui ont eu un traumatisme, quelque chose comme ça, souvent ils rêvent de tornades, de ponts qui s'écroulent, de tempêtes. Donc il y a ça dans les rêves de Carlos. Et voilà, et donc petit à petit, elles vont comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui est solide, une analyse scientifique qui leur dit bah voilà, il y a vraiment un souci, et elles vont même aller mener l'enquête en suivant finalement l'analyse sociologique qui a été menée sur les rêves de Carlos.
Exactement. Et sans rien dévoiler du tout, il y a une chose qui m'a amusé, c'est que finalement Carlos lui aussi est victime.
Alors il est victime. Alors c'est pas évident de répondre sans dévoiler la fin justement.
Ben non.
Effectivement. Tout à fait. À la fin, on comprend aussi que les choses sont très compliquées pour lui. Mais même au début, à la limite, si on évite de parler de la fin, il est aussi un peu victime parce que le pauvre, il y a quand même sa femme qui est en train de faire tout un tas de trucs dans son dos, qui est en train d'analyser ce qu'il fait. Il n'a aucune idée de ce qui se passe.
Ah bah, fallait pas rêver.
C'est ça.
Merci beaucoup, Pascal Dietrich. Donc, je rappelle le titre de votre livre, c'est « Faut pas rêver », qui est paru aux éditions Liana Lévy. Et on va se quitter sur un titre, pas, le titre ne l'est pas, mais The Ramones, qui sont dans le livre.
ouais. Pour donner du courage, il met un morceau des Ramones, Carlos.
Ouais, you're gonna kill that girl. Merci beaucoup.
Merci.
I saw walking down the street. He jumped and he knocked her off her feet. And then I knew it was the end of her. It's gonna kill that girl. It's gonna kill that girl. It's gonna kill that girl tonight. Down the street, all sincere and stupid bits. jumped and he knocked it off her feet. And then I knew it was the end of her.
What the devil?
Hey, he's gonna kill that girl. Hey, he's gonna kill that girl.
On change radicalement d'ambiance pour visiter les coulisses de l'économie de marché, du merchandising, du marketing, avec un roman noir savoureux, très drôle, même si le comique grince un peu parfois, et tant mieux. Son titre Sur les rails, il vient de paraître aux éditions Filature et son auteur Julien Hervieux est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc votre héros, là, au début du roman, Malik, c'est un petit commerçant en difficulté, ce qui est courant aujourd'hui, et c'est pas à cause de la pandémie que lui est-il donc arrivé.
Exactement, c'est un petit commerçant en difficulté, puisque lui, ce qu'il vend, c'est du shit. Et ce qui lui arrive, c'est quelque chose de tout à fait basique, c'est qu'il a des petits soucis avec la justice. Donc pas besoin de pandémie pour ça, effectivement.
Eh non.
Donc ce garçon, alors je vais tout de suite enchaîner, hein, va rencontrer effectivement un sympathique personnage qui va se proposer de l'aider, qui est donc Sam, un consultant en marketing, qui va lui proposer de relancer sa boutique.
Oui, c'est ça, et Malik se méfie parce que déjà ces gens-là, il ne les connaît pas, c'est pas son monde, ils n'ont pas le même langage. Et puis Sam lui demande des choses quand même assez étranges, comme de s'habiller en costard, faire des choses que lui ne connaît pas, d'arrêter de dire wesh toutes les deux phrases. Et il est d'autant plus méfiant qu'il apprend que Sam a été mis à la porte de son entreprise. Bon, c'est des prétextes fantaisistes. En fait, c'était pour faire des économies. Et Sam lui propose un étrange marché que Malik a du mal quand même à accepter.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, Sam, lui, c'est quelqu'un qui aime le fric, hein. c'est un pur néolibéral, tout ce qu'il y a de plus.
C'est le macroniste de base.
Il est peut-être même au-delà. Donc effectivement, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le fric, ce qui est un point commun avec ce sympathique petit commerçant de Malik, puisque les dealers, généralement, ils sont pas spécialement intéressés par d'autres sujets que le fric. Hein. Donc les deux se rencontrent autour de ça, mais c'est deux mondes différents, et Sam va lui proposer de dire, écoute, pour l'instant, tu vends du shit. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape du dessus, on va vendre de la coke et on va commencer à la marketer. Et ça, effectivement, c'est basé entre autres sur des histoires vraies parce que le marketing existe dans le monde de la drogue. Il a commencé à rentrer il y a quelques années. Il y a quelques années, dans certains cas, c'est un peu plus ancien. Mais sur le monde de la coke, c'est encore très, très, très récent. Ça, j'en ai pas parlé dans le livre, mais par exemple, il y a des douaniers qui ont arrêté des cargos contenant des pains de coke marqués Dolce Gabbana. parce que voilà, les mecs tentent en fait de commencer à faire du packaging, du marketing. Enfin, le néolibéralisme touche le milieu de la drogue.
Oui, et Sam, c'est un bon quoi. Il a vraiment des idées qui sont d'avant-garde et qui fonctionnent très bien. Il a beaucoup de mal à convaincre Malik parce qu'en fait, ils ne parlent pas le même langage et qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs.
C'est ça, c'est-à-dire que Malik, il a les principes des cités, donc c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu complètement différent et qui n'a pas du tout le même référentiel. C'est évoqué plusieurs fois dans le livre, c'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes un gamin de 8 ans dans une cité et que votre prof à l'école, il vous parle de valeurs, de respect, etc., alors que quand vous rentrez dans votre cité, c'est plutôt qui est le plus fort ou qui a le plus de fric dans le quartier, il y a une réalité qui est complètement différente. Donc ça, j'ai eu l'occasion d'aller un peu sur le terrain pour vérifier ça. Et donc forcément, ils parlent pas le même langage. Alors que Sam, c'est plutôt l'escroc dans les règles. C'est-à-dire le mec qui sait comment on monte une société, on lève un prêt, on sait que la société va se casser la gueule, on fait des manœuvres financières. C'est pas éthique, mais c'est complètement légal. Et donc, à la rencontre des deux mondes, ils savent qu'ils peuvent, bah, on va être très franc, baiser beaucoup de gens.
Exactement, et faire un max de fric. Et il lui apprend des choses comme, par exemple, qu'il faut en perdre, qu'il faut perdre de l'argent pour en gagner. Et ça, c'est quelque chose qui surprend Malik au
c'est
départ.
Ça. C'est ça. C'est qu'il y a vraiment ce petit aspect. Pourquoi est-ce qu'il faut, voilà, il faut dépenser du fric pour en gagner. Alors Malik, lui, connaît ça sous une forme autre, c'est-à-dire que dans le milieu du deal, il y a le fait de s'endetter en vendant de la marchandise pour quelqu'un. Alors du coup, on n'a pas intérêt à la perdre, hein, la marchandise. Mais lui, il va vraiment lui dire, voilà, il va faire que tu claques du fric, que tu fasses des investissements, et il va même lui dire, on va monter une boîte pour avoir de la crédibilité, et il va lui montrer que, bah ouais. On investit, on fait des prêts, on passe par des choses légales, on va mettre une voiture dans la société pour faire monter son prix, pour rassurer le banquier, pour emprunter cet argent, argent qu'on va dépenser pour tromper des gens, puis aller acheter de la marchandise, voilà. Et c'est aussi l'occasion en sens inverse pour Sam de découvrir, lui, les parties qu'il connaît pas, c'est-à-dire vraiment le milieu des négociations du deal, et puis accessoirement les banques illégales.
Les banques illégales, les techniques de vente, les nourrices, les chouffes, enfin, tout un monde qu'il connaît pas.
Voilà. Et justement, ce monde, bah, c'est l'occasion aussi de présenter au lecteur, parce que le roman, c'est une histoire, évidemment, mais il y a des pauses régulières avec l'un des deux personnages qui s'exprime et qui va donner son point de vue sur pourquoi il agit comme ça. Et ça permet de donner des chiffres, genre des chiffres sur le trafic de drogue, des techniques sur comment on fait passer quelque chose, sur quelle peur on a, comment ça fonctionne, combien ça coûte, parce que c'est aussi une vraie question, comment est-ce qu'on peut s'enrichir, et si je vais en prison, comment ça se passe. Enfin, toutes ces questions-là. Donc, ils ont des méthodes, et Malik veut lui présenter les banques illégales, qui sont donc des boutiques où on va nettoyer du fric, et qui ensuite, cet argent, bah, il va disparaître ou être blanchi, voyager un petit peu et revenir sous d'autres formes dans d'autres pays. Enfin, il y a vraiment beaucoup de méthodes de ce côté-là. C'est très créatif d'ailleurs.
Ouais, mais c'est un truc qui étonne complètement Malik, c'est qu'il peut filer du fric à un petit commerçant et le récupérer dans un autre pays sans aucun problème, en liquide. Enfin, c'est des choses extraordinaires, mais c'est la façon de fonctionner des terroristes aussi.
Voilà, parce qu'en fait, ces milieux, ils financent effectivement plusieurs choses. Hein. Il y a les deals, le grand banditisme et puis le terrorisme. Hein. Les banques illégales, en général, elles ont tendance à croiser un peu certaines effluves, si je puis dire. Mais par exemple, une méthode qui existe, c'est d'aller donner de l'argent à quelqu'un qui a des contacts, par exemple, au Brésil. La personne au Brésil, elle va acheter des parts d'un appartement avec cet argent et l'appartement va se retrouver à votre nom ou via une société écran, en tout cas, à votre nom. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous déposez de l'argent, vous gagnez des parts dans le bâtiment que vous achetez, et donc concrètement vous possédez quelque chose dans un pays où, ouais, bah, ça va être difficile d'identifier et de saisir.
Et là, il y en a un que vous ratez absolument pas, c'est le marché de l'art. Alors, là, c'est fantastique. Alors là, Malik s'y attendait absolument pas. Lui, il a peur de rien y connaître. Et Sam lui dit, mais t'as pas besoin d'y connaître. De toute façon, les codes, c'est nous qui les faisons. Et on peut faire n'importe quelle merde, disons-le. Et on, voilà, va la vendre très cher. Et ça va blanchir ton argent.
Voilà, parce que un des grands principes du marketing, c'est que, ben voilà, faut faire plaisir aux clients. Et sur le marché de l'art, il y a ce principe du roi est nu, c'est-à-dire que personne ne veut dire, mais c'est une merde, parce que on n'a pas envie de passer pour l'ignorant du coin dans l'art contemporain.
Ouais, ça, c'est, voilà, vous l'expliquez très bien, ouais.
Voilà, c'est, on veut pas passer pour un débile, donc on dit, oh, si, bien sûr que je vois que c'est une grande œuvre, oui, je l'ai compris, bien sûr qu'elle vaut 10 000 euros, oui, je suis quelqu'un de très intelligent et je vois la valeur de cette œuvre. Et donc, en fait, on leur vend de l'ego à ces gens. Donc, voilà, ils vont profiter de ça pour blanchir de l'argent en vendant des œuvres à des prix astronomiques. Évidemment, en faisant monter ça doucement, enfin en respectant certains principes du marché de l'art, pour montrer qu'en fait, on peut blanchir de l'argent facilement parce qu'on peut donner n'importe quelle valeur à un objet artistique. C'est plus difficile de vendre une pizza à 10 000 euros. Par contre, vendre un tag, on peut le vendre très très cher. Banksy, d'ailleurs, qui est évoqué dans le livre, montre qu'on peut donner des valeurs absolument énormes à des graffitis.
Exactement. Et quand on reprend votre livre avec ces deux personnages, Sam et Malik, et puis Fun, qui est un peu un traître, qu'on retrouve petit à petit, d'autres personnages qui le traversent, on s'aperçoit que cette société, c'est qu'une immense escroquerie.
Voilà, de haut en bas, parce que même finalement, même le dealer qu'on considère comme étant tout en bas de l'échelle et que le lecteur, on va dire, le lecteur du bon côté de la loi, forcément, il n'aura pas forcément de sympathie pour un petit dealer. Voilà, on va montrer qu'en fait, il vit dans un monde différent où il aura ses propres règles et où effectivement, il y a des traîtres, on peut se pourrir entre soi, mais que tout en haut de l'échelle, en fait, bah voilà, les élus du quartier qui vont se présenter comme les oies blanches sont pas forcément beaucoup plus clean, avec des méthodes qui sont connues en France, hein, qui ont été dénoncées plusieurs fois ces 20 dernières années, c'est-à-dire les réseaux d'électeurs où en fait les élus vont fermer les yeux sur certains trucs, vont engager avec des emplois fictifs certaines personnes en échange de voix au moment des élections. Donc tout le monde y trouve son compte. C'est ça qui est assez affreux, c'est que dans cette histoire, tout le monde est pourri. Et c'est un peu le principe. Il n'y a pas de gentil héros.
Eh bien, moi, après avoir lu votre livre, moi, personnellement, moi, j'étais beaucoup attaché à Malik parce que je trouve que c'est le seul qui fait des choses uniquement pour la morale.
Mais parce qu'il a son code d'honneur, il a ses principes.
C'est le seul qu'on a un.
Voilà, voilà.
Et Sam, qui est le type que la police n'emmerdera jamais, qui n'aura jamais de contrôle d'identité, Sam, il va lui apprendre à perdre ses valeurs petit à petit.
Mais ouais, mais c'est un peu le pacte avec le diable. C'est-à-dire vraiment, c'est ce type en costard qui va débarquer, qui va lui dire « Est-ce que tu veux être riche? Vends-moi ton âme. »
C'est ça, ouais.
Voilà. Donc Malik en soi, c'est un mec qui deal, mais effectivement qui a ses propres codes. Et à plusieurs reprises, ça va revenir le fait que dans une cité, il y a des choses qu'on fait pas. À la famille, aux copains, enfin, il y a vraiment des trucs qu'on peut pas dépasser. Et lui, il va lui dire « Mais ça, tu les emmerdes. » T'es là pour le fric, on est là pour le fric, tout ça, tu laisses tomber. Voilà, donc ça permettra de créer quelques petites histoires entre eux, évidemment, parce qu'il faut quand même bien, justement, qu'il y ait une histoire, mais ça montre que bah, le plus salaud, c'est pas toujours celui qu'on pense.
Oui, c'est ça. Et puis c'est le fond de sa philosophie à Sam, c'est t'es là pour vendre, et t'es là pour vendre du vent. T'es là pour vendre du rêve. Et Malik, lui, il n'est pas habitué à ça. Lui, il est habitué à du concret. Et tous les jours, lui, il est confronté à des difficultés pas possibles. Et c'est vraiment pas une impossibilité d'échanger, mais il parle vraiment pas le même langage.
Non, clairement pas. Mais lui, il vend du vent parce que c'est une base en marketing et qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Il faut savoir qu'il m'arrive de donner des cours hein, dans des facs où on parle marketing. Et donc, c'est des vraies méthodes. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, on vend beaucoup d'ego à une personne. Oui. Un produit, c'est ce qu'on a vu avec les marques. On a tous connu ça quand on était gamin et même plus tard. Des gens qui ne s'habillent qu'en marque parce qu'en fait, ils veulent se donner une image. Et ben, c'est un des principes de base. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une question de qualité du produit. On n'est plus dans une question de est-ce que le produit est vraiment, il vaut ce qu'il vaut, c'est je vais dépenser de l'argent pour montrer que j'en ai ou simplement pour porter un truc qui me met en valeur. Et c'est tout le principe du packaging, c'est-à-dire que eux, l'histoire, c'est ils vont tenter d'introduire une drogue, donc de la coke, qui repose sur tout ce qu'aiment les consommateurs donc, qui ont un peu de fric, c'est-à-dire un truc qui leur vend un petit peu d'ego au passage, qui leur permet de se vendre devant leurs potes, enfin, toutes les méthodes aujourd'hui qui permettent de vendre beaucoup de produits et pas seulement de la drogue.
Mais les idées packaging de Sam sont extraordinaires. Moi, je laisse le lecteur le découvrir. En fait. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, ils vont au Suriname et au Suriname, ils vont acheter de la coke. Et c'est ensuite que ça va devenir difficile parce que leur relation entre Malik et la relation entre Malik et Sam devient de plus en plus difficile parce que Malik se dit que finalement, il a plus besoin de l'autre.
Bah voilà, en fait c'est aussi un des grands problèmes dans beaucoup d'associations, c'est ce petit moment où il y a beaucoup de fric sur la table. Au départ, évidemment, tout le monde fait équipe parce qu'on a besoin de tous les talents. Mais une fois que l'affaire elle ronronne un peu, on se dit bah voilà, le mec il m'a laissé lancer mon affaire. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de lui? Alors là, je vais pas spoiler évidemment le livre.
Non, surtout
mais
pas.
Évidemment, on a des tensions sur le sujet et se pose la question du comment est-ce que je suis utile, comment me rendre utile, et accessoirement, pourquoi est-ce que je vais garder telle ou telle personne dans mon organisation? Donc, ce qui est l'occasion pour Sam d'expliquer, lui, ce qu'il faisait du côté légal des choses avec les gens qu'il estimait inutiles, et on parle de vraies méthodes, justement, qui se...
Ah, ça, c'est effrayant, ça, quand vous racontez exactement comment ça se passe du côté des grandes sociétés, c'est effrayant.
Voilà, et pareil, c'est basé sur des vrais récits, hein, de vraies personnes qui ont fait ces métiers-là, c'est-à-dire qui étaient chargées de s'assurer que de faire dégager des gens de manière plus ou moins malpropre. Et voilà, donc lui, il va réfléchir à comment on applique ça dans un milieu qui, justement, a pas vraiment de code du travail. Donc ça va leur permettre d'explorer, on va dire, de nouvelles pistes sur comment on gère une société illégale.
Ouais, en fait, il n'y a plus besoin beaucoup de changer parce que du code du travail, on n'en a plus beaucoup. mais soyons clairs, ce que vous racontez dans ce livre, moi je le répète, hein, il est vraiment très, très drôle. Il y a des vrais, une vraie intrigue, il se passe vraiment des choses, il y a de l'action, il y a tout ça. Mais avant tout, c'est une analyse sociale pas possible, quoi.
Ah ben, c'est, en fait, l'économie souterraine, c'est un reflet de nos sociétés de bien des manières. C'est-à-dire que c'est une économie néolibérale, tout ce qu'il y a de plus poussé, puisqu'il n'y a pas de règle en soi, du moins pas de règle écrite. Mais voilà, elle tourne parce qu'on a des consommateurs, eux, très propres sur eux, qui viennent acheter, et des fois à des prix assez extraordinaires, parce que c'est couvert par certaines personnes, parce que politiquement, on a certains intérêts à fermer les yeux sur certaines choses. Donc, en fait, tous les pans de la société, d'une certaine manière, ils sont confrontés à un moment ou à un autre, même parfois sans s'en rendre compte. Et ça reflète un peu la grande hypocrisie dans laquelle on est tombé de bien des côtés. Les passages, justement, où on va évoquer la police, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, la politique du chiffre, et on donne des vrais chiffres, hein. On parle des 600 tonnes de cannabis importées en France en 2018, estimation pour 100 tonnes récupérées. Ça laisse rêveur quant à ce qui circule, d'où ça vient, et puis on parle aussi de ce qui se passe au Maroc.
Enfin, des trafics avec le Maroc, ouais, avec les différents contacts, les façons dont ça passe, etc. C'est passionnant, en fait. Et en plus, on se marre bien.
Ouais, ben ça, voilà qui fait plaisir, et tout ça, c'est basé sur des récits de gens qui sont directement dans ces milieux, donc qui chacun ont partagé leur histoire, aussi bien côté police, douane, que côté consommateur, pour construire une histoire qui tienne un peu debout.
Alors, si vous voulez une bonne image de notre société, enfin, quand je dis bonne, c'est à voir. Moi, je vous recommande le bouquin de Julien Hervieux qui s'appelle « Sur les rails » et qui vient de paraître aux éditions Filature. Et pour se quitter, on va écouter Johnny Cash et ça s'impose, c'est Cocaine Blues.
Parfait.
N'est-ce pas?
Early one morning while making the rounds, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and went to bed. I stuck it loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hop joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hop that shot your woman down. Yes, sir, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me sore. I thought it was a daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no friends for to go my bail. They slapped my dried up carcass in that county jail.
Ça sera tout pour aujourd'hui. Vous avez de quoi ne pas vous ennuyer lors des longs après-midi pluvieux de ce joli mois de mai. On se retrouve le mois prochain en pleine santé, j'espère. Gardez les gestes barrières, et surtout faites-vous vacciner. Et pour de nouvelles enquêtes et de nouveaux horizons, bye bye.
In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me.